On va commencer, Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le chapitre 45, page 313.
Faire juste une petite dédicace pour ma mère.
L'étude du 8e.
Contrôle technique.
Et sur Bezrat Hashem, le nom.
Fois Shema,
Paul 2.
Alors, c'est Reima.
Reima.
Bat Marcel Journeau.
Ok. On a expliqué la semaine dernière, on a commencé le chapitre 45. Et dans ce chapitre, nous avons expliqué un point très important. On a commencé à utiliser une clé. Une clé qu'on n'a pas utilisée jusqu'à maintenant dans le Tanya. Une clé que j'ai appelée la semaine dernière le pass. C'est quoi? Alors on était un peu fort la semaine dernière. D'accord? D'ailleurs, je vois que... Il y a peut-être qui a eu peur. Alors. Mais sérieusement. Donc on a expliqué la chose suivante. On a expliqué que lorsqu'on voit qu'on n'arrive pas à décoller. Lorsqu'on voit qu'on n'arrive pas... On n'arrive pas à gagner le Yetzer Hara. On n'arrive pas à se sentir concerné par la Torah, par la Mitzvot. Alors, il y a une technique. C'est quoi la technique qui reste? La dernière technique qui reste, technique ultime, c'est quoi? C'est de réaliser qu'on fait pitié.
Qu'on fait pitié?
Oui. De réaliser qu'on fait pitié. Ça, on a expliqué longuement la semaine dernière. Ça veut dire quoi? De réaliser, mais c'est pas négativement que je le dis, qu'on fait pitié du style, c'est mort. Quand on dit qu'on fait pitié, ça veut dire bonsoir. Ça veut dire réaliser, comme on l'a dit la semaine dernière, que lorsque tu reprends toutes les pensées que tu as eues depuis la naissance, lorsque tu dis comment j'étais quand j'étais bébé, et maintenant, Baruch HaShem, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait pendant 60 ans de ma vie? Est-ce que j'ai fait 60 ans d'action? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai détruit? Est-ce que j'ai plus construit que détruit? C'est des vraies questions qu'on se pose. Des vraies questions. Et plus tu te poses des questions comme ça, et plus tu comprends... Plus tu comprends qu'en vérité, on fait pitié. En vérité, il y a rachmanout, on fait pitié. Et donc, il dit la chose suivante. Il dit, le but de tout ça, c'est quoi? Prends, va éveiller la pitié. Le but de tout ça, c'est d'éveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. La semaine dernière, on a parlé longuement de la notion de rachamim. C'est quoi rachamim en hébreu? Rachamim en hébreu, c'est la miséricorde. C'est pas chesed. Chesed, c'est la bonté. Rachamim, c'est la miséricorde. Quelle est la différence entre Chesed et Rachamim? Chesed, c'est la bonté. Ça veut dire que bon, quand il y a quelqu'un qui est devant moi, qui passe par moi un peu difficile, je vais lui dire un bon mot, je vais essayer de pencher la balance vers lui. Mais Rachamim, c'est beaucoup plus fort. Rachamim, la miséricorde, c'est quand on est dans une situation dans laquelle il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. Et là, Kadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, on va faire la miséricorde. Et même s'il n'y a aucune raison de t'aider, je vais quand même t'aider. On a donné l'exemple la semaine dernière. On a dit, c'est comme la différence qu'il y a entre un juge qui est bon. Il y a différentes catégories de juges. Il y a des juges qui sont rigoureux. Point. Il y a des juges qui sont bons. Bon, c'est-à-dire que le juge, il est clément, il essaye d'arranger. Mais au final, un juge, ça reste un juge. Il ne pourra pas te cachériser un crime, c'est pas possible. Ça veut dire que le juge, il a beau être chesed, il a beau être bon, clément, autant que tu veux, ça reste un juge. Par contre, il y a une chose que le président, on avait donné l'exemple dans la PFR, qui est plus fort que le juge, c'est quoi?
La grâce.
C'est que le président peut faire la grâce. Ça, c'est un très bon exemple pour illustrer ce que c'est la rachamim, la miséricorde. Ça veut dire, on dit, si tu veux, on parle même pas de chesed, de bonté. De bonté, etc. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon? C'est plus que ça. Là, on parle carrément ici de rachamim. On parle de miséricorde. Demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Et demander à Hachem pitié. Ça veut dire que des fois, on arrive dans notre vie dans des problèmes qu'on pense qu'on peut résoudre. Et que pendant des mois et des mois et des années, on pense qu'on peut résoudre. Et à un moment, on arrive à la conclusion que ce problème, on ne peut pas le résoudre. C'est un problème qui est insolvable. Et on te dit, c'est peut-être le moment. Donc, c'est un moment de rupture, parce que vous savez... on se bat beaucoup. Je me rappelle, il y avait une fois un raf qui nous avait donné un exemple. L'exemple de l'araignée. Il y a toujours la bataille entre le moustique et l'araignée. D'accord ? Le moustique, il veut bouffer l'araignée. Maintenant, le moustique, il est plus fort.
L'araignée qui veut manger le moustique.
L'araignée qui veut manger le moustique. Exactement. Maintenant, c'est intéressant. Quand vous voyez, si vous voyez la guerre de l'araignée contre le moustique... Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que vous voyez que le moustique, il se bat. Il se débat. Et l'araignée, elle ne le pique pas. Elle le laisse, elle le laisse, elle le laisse, elle le laisse. Et à un moment, tu vois, le moustique, il s'épuise. Et là, dès qu'il est épuisé, l'araignée... C'est-à-dire que l'araignée, déjà, elle a mis son toile. Elle a mis son filet. Mais elle ne bouffe pas encore. Il dit, j'attends. Elle aurait pu le bouquer, pas de problème. Elle attend. Pourquoi elle attend? Parce qu'en vérité, le moustique, il peut se défendre. Vous savez à quel moment il a perdu? Dès qu'il arrête de se battre.
Ouais, il est épuisé.
Dès qu'il décide. Non, c'est même pas épuisé. Il y a un moment dans lequel, il décide que ça sert plus à rien de se battre. Et c'est là qu'il a perdu. Peut-être qu'il aurait pu trouver la force encore. Et des fois, surtout quand tu vois en tant que scène extérieure, tu vois que, dommage, il aurait forcé encore un peu, il aurait pu passer. Seulement quoi? À un moment, le moustique, il se dit, bon, laisse tomber. C'est mort. Ça y est, c'est fini, il m'a eu. Et dès ce moment-là, c'est là que c'est terminé. Alors je dis la même chose.
Mais même dans la vie,
c'est... Exactement. Dans la vie, c'est la même chose. Dans la vie, on passe tous par des situations, des fois, chacun, d'une manière ou d'une autre, par des situations qu'on pense pouvoir régler. Et on espère, d'accord? Ça peut être des fois certains à la maison, ça peut être au travail, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec sa femme. Des choses qu'on aimerait régler. Et on sent que... Alors au début, on est confiant. On dit, t'inquiète pas, tout ira bien, on va régler, etc. Tout ira bien, on est confiant.
C'est le
45. Et après, à un moment, tu arrives à la conclusion que c'est fini, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire tu comprends que c'est insolvable ton problème. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu prends conscience que tu fais pitié, c'est à ce moment-là qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc là, si vous voulez, le cours d'aujourd'hui, c'est un peu la contra du cours de la semaine dernière. Autant dans le cours de la semaine dernière, on a insisté sur le fait qu'on fait pitié, autant dans le cours d'aujourd'hui, on va expliquer comment justement parce qu'on fait pitié, ça va être justement la raison pour laquelle on va se tourner vers Hachem et on va dire « Bon, on a fait assez les malins, maintenant on ne peut plus rien faire sans toi ». Si vous voulez, si on pourrait donner un exemple, on va reprendre les mots, c'est un peu comme un enfant qui fait le malin, il n'écoute pas son père. Il n'écoute pas son père, il fait ce qu'il veut, il fait tout à sa tête. Son père lui dit, fait des remarques. Il fait la bonté, la rigueur, mais à un moment, même la bonté ne peut plus rien faire. Il est tellement laissé aller, on ne peut plus rien faire, c'est mort. Ça ne marche pas. Et l'enfant, il décide de faire à sa tête, il n'écoute personne. Et à un moment, un jour, l'enfant, il comprend qu'il ne peut pas avancer tout seul. L'enfant, il peut avoir 30 ans, 40 ans, je ne sais pas quel âge il a, il peut avoir 20 ans, il peut avoir 15 ans, okay, bon. Et à un moment, l'enfant, il comprend qu'il ne peut pas avancer tout seul. Donc, il y a une rupture chez l'enfant. Un moment dans lequel il comprend qu'il ne peut pas avancer tout seul. Et là, il retourne voir son père. Maintenant, s'il retourne voir son père, il dit, ouais, bon, papa, t'avais raison. Son père, il dit, écoute-moi bien. La même porte par laquelle t'es rentré, c'est la même porte par laquelle tu vas sortir. Va faire un tour. Mais s'il va voir son père, c'est-à-dire, si tu vas voir ton père avec la tête haute, tu lui dis, écoute, papa, voilà, bon, j'ai pensé, peut-être, t'es quand même mon père, hein. Allez, hop, un petit service. Il t'en va bouler. Il dit, mais dis-moi, tu te prends pour qui, là? Tu viens me voir quand t'as besoin de moi? Il a besoin d'argent. Ça marche pas comme ça. Mais si l'enfant, il va avec une démarche de rachamim, et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Une démarche de miséricorde. Il dit, écoute papa, ne me juge pas. Parce que si tu me juges, j'ai perdu. Ne me juge pas. J'ai mal agi, et je mérite tout le mal. Tu peux me jeter, et je mérite. Mais je te demande autre chose. Je te demande pas du chesed. Je te demande pas de la bonté. Je te demande de la miséricorde. Je te demande de passer outre peut-être ton trait de caractère et de me sauver parce que je suis ton fils. Est-ce que le père ne va pas sauver son fils? C'est justement là qu'il va le sauver. Alors si vous voulez, le message qu'on va avoir avec Akadosh Baruch Hu maintenant, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de ça. Aujourd'hui, on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, on lui dit, écoute Hachem, tu vois bien qu'avec tous les efforts qu'on fait, bon, ça marche un petit peu, mais voilà. Donc finalement, il n'y a que toi qui peux nous sortir de là. Donc on ne dit pas ça pour montrer que ça va mal et que c'est mort, c'est fini, on va mourir. On dit ça pour montrer que la seule chose qui peut nous sauver, c'est le rachamim, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Donc évidemment, c'est très positif. Je m'attendais à ce que David y serve le Chaim pour un petit peu nous permettre de faire descendre un petit peu l'idée.
Avec plaisir.
Azak. Non, mais comme il vient du pôle Nord, donc.
Ah. Ouais, c'est vrai. C'est
vrai. On est à la page 313.
Dans le placard ?
Zeush Amarakatou. Avec ça, on va comprendre ce que le texte dit. Vaïchak, page 313, deuxième paragraphe.
C'est là que...
Comment il fait froid dehors ?
Ouais.
Je suis à côté, donc je ne vais pas trop sentir.
C'est doux, mais ça commence à faire froid.
Comment il fait, David, dehors?
Il y a un peu de vent de neige, il fait au moins zéro.
Il
flocon de neige jusqu'à moins.
Ça commence à venir, le froid.
Oui, mais pour l'instant, il y a des flocons de neige, donc il ne monte pas zéro, là.
Ok. Donc, on explique. On dit, ça c'est la miséricorde qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. On dit à Kadosh Baruch Hu, on lui dit, je ne suis pas en train de te demander à Kadosh Baruch Hu de me juger bien. Parce qu'en jugement, j'ai perdu. Je te demande à Kadosh Baruch Hu la rachami, la miséricorde. Et ça, c'est très très important dans la vie. Ça, il y a beaucoup de lettres du rabbi qui parlent de ça. Qu'à un moment, vous savez, il faut apprendre à parler à Dieu. On ne sait pas parler à Dieu. On ne sait pas parler à Dieu. Les gens, ils ne savent pas parler à Dieu. Ils ne savent pas qu'on a un outil extraordinaire qui s'appelle la prière. Et les gens, ils pensent que la prière, seulement quand on mérite. Je dis, ah, comme je me suis bien comporté, donc je mérite. Les gens, ils n'ont pas compris que la prière, c'est comme un fils qui parle à son père. Et qu'il ne s'est pas codifié. C'est-à-dire, tu parles à ton père, c'est tout. Tu parles à ton père, tu lui parles. Et justement, dans les moments comme ça, dans lesquels tu comprends que il n'y a plus rien à faire, tu comprends que le problème est insolvable, tu comprends que tu moulines dans le vide. C'est à des moments comme ça que tu réussis à réveiller la miséricorde, la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Alors on va avancer un petit peu. Chaim.
Michel, tu veux un peu de Chaim?
Michel, un peu de Chaim. Un petit peu. Alors comme je ne comptais pas avant. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nehi Bidvaro. Amen. Un petit peu. Je crois, hier, David.
Amen.
Allez. Ok, on y va.
313.
Page 313.
Il y en a, ils font le Erlich copie, toi tu fais le Yiddish copie, c'est quoi?
313, t'as dit?
313. C'est exactement ça. Zéou, Shamarakatou. On va revenir à ce qu'on était la semaine dernière. Zéou, Shamarakatou. Avec ça, on va comprendre ce que le texte dit. Vaïshak Yaakov les Rachel. Yaakov a embrassé Rachel. Vaïsaet Kolo. Vaïevk. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Yaakov, il a embrassé Rachel, et il a élevé sa voix, il a pleuré. Comme on expliquait la semaine dernière, celui qui lit ce pasouk-là, au sens littéral, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend qu'il y a un monsieur qui s'appelle Yaakov, qui a embrassé une madame qui s'appelle Rachel, et ça s'arrête là. Et celui qui rentre dans les profondeurs, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, attends, qui? Ah, demande à Shalom d'avoir, d'ailleurs.
Shalom.
Ouais.
Dis-lui qu'on est à la page 312.
Qui? Ah.
La Serge. Tu vas voir sa réaction.
Pour toi? On est. Serge, on vient de passer à la page 312.
Ah! T312.
Tu vois?
Pourquoi une T312?
Voilà. Dan, allez, on y va.
Dan nous a tout expliqué déjà.
Zéou, Shamarakato. Hmm, c'est bon?
Oui, c'est bon.
Mais c'est pas le bon livre.
Pour toi? Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit, que Yaakov a embrassé Rachel, et il a élevé sa voix, et il a pleuré. Alors je disais, celui qui lit la paracha au sens littéral, il comprend qu'il y a un monsieur qui s'appelle Yaakov, qui a embrassé une femme qui s'appelle Rachel, ce qui n'est pas faux. Je me demande, tu dis, pourquoi la Torah me raconte ça? Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre, etc. Alors le Zohar explique la chose suivante. Là, on va développer plus longuement ce qu'on a commencé la semaine dernière. Il dit comme ça. Il dit, Yaakov, c'est le symbole de la miséricorde. Parce que dans les trois patriarches, Abraham représente la bonté. Yitzhak représente la rigueur. Et Yaakov représente Rachami, la miséricorde. Donc quand on dit que Yaakov pleure, ça veut dire que c'est la miséricorde divine qui pleure. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi tu me dis que c'est la miséricorde divine? C'est pas Dieu qui pleure, c'est Yaakov qui pleure. Alors là, il faut que j'explique un point. Vous savez, t'es avec nous, David. On dit que les patriarches et les matriarches sont ce qu'on appelle Merkava. Merkava, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme un char. Ça veut dire qu'en vérité, il représente une énergie et une idée divine. Je vais expliquer ce que je veux dire. On donne souvent l'exemple du char dans la Kabbalah. Si par exemple je suis dans une voiture, on va prendre l'exemple d'une voiture, et je tourne le volant à droite, qu'est-ce qu'elle fait la voiture ? Elle va à droite. Maintenant, est-ce que la voiture a décidé de tourner à droite ou tourner à gauche ?
Non.
Ça veut dire que quand tu tournes à droite, ça tourne à droite. On est d'accord ? Si par exemple j'avais un serviteur, c'est un exemple, et que je demande au serviteur, je lui dis tourne à droite, et qu'il tourne à droite, est-ce que je peux dire que c'est comme un volant ? Oui. Ça veut dire comme ça. Imaginez que j'ai deux scènes. J'ai ici un serviteur qui est là et une voiture qui est là. Le serviteur, je lui dis, toi, tourne à droite. Et il tourne à droite. Le volant, je tourne à droite et la voiture, elle tourne à droite. Est-ce que c'est la même chose ?
Non. Il tourne à droite.
Exactement. Le serviteur, même s'il est soumis, mais concrètement, il a un libre arbitre. Il aurait pu dire non. Mais il a décidé de dire oui. Peu importe la raison. Par la peur, par l'amour. Il a dit oui. Mais il aurait pu dire non. Alors que le volant, est-ce qu'un volant il peut dire non ? Non. Alors ça c'est un exemple que donne le Zohar, le Midrash.
S'il peut se braquer.
Non. Ça c'est un exemple, que donne. Hein ?
Pas mal.
Elle est bien placée. Alors ça c'est un exemple que donne le Midrash et le Zohar surtout pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, comment étaient les patriarches. Il dit les patriarches, ils sont soumis à Kadosh Baruch Hu à un niveau qu'on n'a même pas idée. Ça veut dire que les patriarches, chacun des patriarches, représente une mida d'Akadosh Baruch Hu. Au point que si Dieu, par exemple, veut exprimer la bonté dans le monde, ça passe par Abraham. C'est pas il dit à Abraham, écoute, j'aimerais bien, si tu peux, me représenter dans ce cas. Non. C'est automatique.
C'est l'essence même d'Abraham.
Dès que Dieu tourne le volant du Chesed, ça passe par Abraham. Dès que Dieu tourne le volant de la Gvoura, ça passe par Yitzhak. Et dès que Dieu y tourne le volant de la miséricorde, ça passe par qui ? Ça passe par Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov est le symbole... Pardon ? Matriarche, c'est différent, mais c'est pareil. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de là, on voit que Yaakov représente la miséricorde. Quand on te dit que Yaakov pleure, qu'il y a un monsieur qui s'appelle Yaakov qui pleure, le fait qu'un monsieur comme ça, il pleure, ça veut dire quoi ? Ça exprime le fait qu'en vérité, c'est la miséricorde divine qui est en train de pleurer. Pour qui elle pleure ? Ishak, Yaakov, les Rachel. Yaakov pleure pour Rachel. C'est quoi il pleure pour Rachel ? C'est qui Rachel ? Alors il dit que Rachel, il knesset Israël. Car Rachel, c'est l'assemblée d'Israël, mais corps que la Neshamot, l'origine de toutes les Neshamot.
Yaakov, c'est le mari de Rachel.
Yaakov, bien sûr.
Je m'excuse une seconde. Je mets le temps de réfléchir.
Donc je disais, Yaakov et Rachel.
Est-ce que c'est quand Rachel Est-ce que c'est quand Yaakov avant qu'il rencontre Rachel, elle est déjà des âmes.
Alors justement, c'est ce que je vais expliquer. Yaakov, c'est le symbole de la miséricorde divine. Rachel, c'est le symbole de Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, qui est la source de toutes les Neshamot. Et c'est pour ça, quand on te dit que Yaakov aime Rachel, c'est le roi qu'il aime Rachel, ça veut dire que la miséricorde divine aime les juifs.
C'est la symbolique.
Mais oui, c'est la symbolique. Maintenant, Rachel était stérile. Ça veut dire quoi qu'elle est stérile ? Ça veut dire, ça exprime le fait que l'assemblée d'Israël peut descendre tellement bas au point qu'elle n'a pas d'enfants. C'est quoi les enfants ? Les enfants, c'est la Torah et les mitzvot qu'on fait. Donc quand on te dit que Rachel est stérile, ça exprime quoi ? Ça exprime une situation dans laquelle l'assemblée d'Israël n'arrive pas à faire des enfants. N'arrive pas à générer la Torah des mitzvot. N'arrive pas à générer la lumière. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que Monsieur Yaakov, il rencontre Madame Rachel alors qu'elle est stérile. Comme ça, il les pousse à créer un concept. À représenter une situation qui va arriver plus tard dans l'histoire. Une situation dans laquelle le Ham Israël sera stérile. Le Ham Israël n'arrive pas à faire d'enfants. Le Ham Israël n'arrive pas à générer de la Torah. Maintenant, ça ne s'est pas encore passé. Mais Dieu est en train de créer ce concept. Quand tu as Yaakov qui pleure pour Rachel qui est stérile, ça veut dire que c'est comme si tu as la miséricorde divine qui est en train de pleurer pour l'assemblée d'Israël du fait qu'elle est stérile. Et elle finit par avoir des enfants. Comment elle appelle son premier fils ?
Yosef.
Vous savez, c'est Yosef. Yosef, littéralement, ça veut dire, elle a dit que Dieu me rajoute. Puisque dans le calcul qu'elle a fait, Yosef était le 11e enfant. Et elle savait qu'il allait avoir 12 enfants. Donc Yosef, en hébreu, ça veut dire, elle dit, que Dieu m'ajoute. Ça veut dire que je demande à Dieu que le dernier qui manque soit le mien aussi. Et sa prière était écoutée. Le 12e, elle était pour elle aussi. Elle était écoutée. Plus personne n'a eu d'enfant, c'est elle qui a eu le 12e. Mais c'est quand même bizarre comme nom. Ça veut dire quoi? Et là, vous allez voir comment avec le Tania, ça nous donne complètement une autre dimension. On te dit comme ça, on te dit c'est bizarre comme nom. Non, imagine une femme qui sait qu'elle doit avoir deux enfants et elle appelle son premier deuxième. Elle appelle son premier, elle appelle Yosef, elle dit qui m'en rajoute un. Ça veut dire que lui, je dis c'est quoi ton nom, comment tu t'appelles? Il dit moi je m'appelle qui m'ajoute. C'est lui, tu vois, lui le deuxième. Et toi, comment tu t'appelles? Ben, je m'appelle qui m'ajoute. Mais c'est quoi ton nom à toi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Explique le rabbi de Tzemar Tzedek. Il dit, ça veut dire quoi, Yosef Hachem li ben Acher? La Chassidou te dit comme ça. Elle te dit, ça veut dire, que lorsqu'elle a appelé son fils Yosef, elle a dit, Yosef Hachem li, que Dieu m'ajoute ben Acher. Acher en hébreu, ça veut dire quoi? Un autre.
Un autre.
Celui qui est distant de la Torah. Ben, c'est quoi, ben? C'est un fils, c'est celui qui est dans la Torah. Yosef Hachem li ben Acher. Que Dieu m'ajoute. Que Dieu me transforme, qui m'ajoute le acher, celui qui est autre, et qui me le transforme en ben, qui me transforme en fils. C'est-à-dire que là, on comprend que le premier enfant de Rachel, Yosef, il exprime parfaitement l'esprit de la prière de Yaakov. Yaakov, c'est la miséricorde divine. Il prie pour Rachel. C'est qui Rachel? C'est l'assemblée d'Israël. Rachel est stérile. Ça veut dire que l'assemblée d'Israël ne produit pas d'enfants. Et Dieu va écouter les tfilotes. Et qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner un enfant qui s'appelle Yosef. Et Yosef, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit, tu vas prendre celui qui est acher, celui qui est autre, et Yosef, tu vas l'ajouter. Tu vas le rajouter, tu vas le remettre dans la Torah. Ça veut dire que les prières ont été écoutées. Rachel est plus stérile. Ses enfants sont plus stériles. Le Ham Israël est plus stérile. Le Ham Israël génère la Torah des mitzvot. Le Ham Israël a la possibilité de générer la lumière. Ça c'est en résumé ce qui se passe derrière les coulisses d'une histoire qui a l'air d'une histoire sympathique, familiale, entre bon, Yaakov, Rachel, etc., les tensions, ça n'a rien à voir.
C'est pas l'essentiel.
L'essentiel, c'est qu'on est en train de montrer ici que la miséricorde divine peut ouvrir toutes les portes. Même une personne qui est stérile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne qui est stérile?
Prier.
Non mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est stérile. C'est pas quand on te dit... Non, attends, la Torah te dit qu'elle est stérile. C'est pas quand on te dit qu'elle n'a pas encore eu des enfants. Vous savez ce que ça veut dire stérile? C'est pas quelqu'un stérile. C'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est pas quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant, qui n'est pas encore tombé enceinte. Quand on dit quelqu'un qui est stérile, il est stérile. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire que même le chesed, il ne peut rien faire. Mais la bonté, il ne peut rien faire. La seule chose qui peut nous sauver la situation, c'est quoi? Rachamim, la miséricorde. Et ça, c'est le jeu de cours d'aujourd'hui. On te dit, quand tu arrives à des situations dans ta vie dans lesquelles tu sens que c'est bloqué, il n'y a rien à faire, ça n'avance pas, et que c'est stérile. Voilà, c'est stérile. C'est bloqué, c'est mort, ça tourne en rond.
C'est dans le miracle.
D'accord? Exactement, ça relève du miracle. Et bien on te dit, c'est à un moment comme ça que Yaakov débarque. C'est à un moment comme ça que la miséricorde divine débarque. Et quand la miséricorde divine elle débarque, elle peut faire tous les miracles. Elle peut prendre une femme stérile, elle peut prendre un peuple juif qui est stérile, elle peut te prendre un juif qui est stérile, et elle le transforme en enfant d'Akadosh Baruch.
Alors, Mendy, dans le texte, il dit d'abord, il éleva la voix et il pleura.
Oui.
Donc la voix, ça veut dire quoi ici?
La prière.
C'est la prière, c'est la...
Bien sûr, il a prié.
Donc il a demandé, et en demandant, il a en même temps pleuré, et c'est les pleurs qui ont fait...
Mais c'est le concept qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'en vérité, Rachel aurait pu avoir d'enfants.
Parce que Rachel... Agar, elle a pleuré aussi dans le désert.
Donc, il a entendu.
Il a miséricorde.
Bien sûr.
Il lui a donné...
Mais là, Rachel, de son côté, elle aussi, elle personnifiait l'assemblée d'Israël. Et lorsque Rachel était stérile, elle était en train de personnifier la stérilité du peuple juif, qu'elle arrivait plus tard.
Donc par rapport aux remises.
Voilà.
Et pour en revenir à Agar pouvait avoir des enfants.
Oui,
c'est la différence.
Donc on va dans les mots. Mais Yaakov, donc bon, j'ai voulu refaire parce que je pense, on l'a fait la semaine à la fin, mais je voulais refaire parce que je pense que c'est très important. Yaakov, midato elunashe, midatachem shebatzilut. Yaakov, par son attribut supérieur, qui est l'attribut de la compassion d'Atzilut, ou ameore rachamim rabim alea. C'est lui qui évoque la miséricorde sur elle. Vaïsa et kolo, quand on dit qu'il a élevé sa voix. Alors, c'est intéressant, parce que c'est pour répondre à la question. C'est durant qu'on dit qu'il a élevé sa voix. Il a pleuré, on a compris. Miséricorde, il a pleuré. Mais ça veut dire quoi, élever la voix? Normalement, quand on a pitié de quelqu'un, on n'élève pas la voix. On baisse la voix. On a une voix qui est plus douce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Yaakov, il a sa voix qui s'est élevée? Sa voix s'est élevée et il a pleuré. Si t'as pitié de quelqu'un, pourquoi tu lèves sa voix? Quand vous voyez quelqu'un de qui vous avez pitié, vous levez la voix sur lui? Seulement là, il te dit non. Faut comprendre au sens littéral. Ça veut dire quoi? Vaïssa et Kolo, il a élevé sa voix. Élevé au sens littéral. Ça veut dire qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, on est maintenant à un niveau dans lequel pour l'assemblée d'Israël, c'est mort. Il n'y a rien à faire. Mais si Vaïssa et Kolo, si on élève la voix, c'est-à-dire si on va chercher un niveau qui est encore plus haut, un niveau de la miséricorde, donc on élève la voix, on élève la tefila vers un niveau qui est très haut, là-bas, un niveau comme ça, on peut ouvrir toutes les portes. C'est ce qu'a fait Yaakov. Lorsque Yaakov il a pleuré, ça veut dire que la miséricorde est en train de chercher une source qui est encore plus haute pour aider le Ham Israël pour nous aider à nous. Ça veut dire que ce qu'on veut comprendre ici, et ça c'est très fort comme message, c'est que c'est jamais perdu.
C'est jamais quoi?
C'est jamais perdu. C'est ça le rimouche. C'est jamais perdu. Même quand tu crois que c'est mort de chez mort, c'est terminé. Ta vie ne changera pas maintenant. C'est jamais perdu. Ça, Yaakov nous l'a prouvé. Une femme qui était stérile, il suffit d'avoir la bonne clé. Tu montes plus haut et tu ouvres la porte de la miséricorde. Et quand elle apporte la miséricorde, c'est la clé qui passe partout. Voilà. Exactement. Alors, on va avancer dans les mots. Vaïssa et kolo, les mala. Quand on dit qu'il a élevé sa voix, c'est-à-dire qu'il a élevé sa voix en haut. L'imkor, achamim elyonim, à la source de la compassion supérieure.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le Yaakov de la génération, c'est le rabbi alors?
Évidemment, Yaakov c'est le tzadikim, on va expliquer après le tzadikim. Mais là pour l'instant on parle de Hakadosh Baruch Hu. Après on va expliquer le rapport avec le tzadikim. Limkor achamim elyonim, anikra av arachamim ou mekoram. Ce qui est appelé av arachamim, le père de la miséricorde. Alors ça c'est intéressant aussi. Vous savez, dans les prières de Rosh Hashanah et Yom Kippour, on dit mikamocha av arachaman ou av arachamim. Je vais traduire. Qui est comme toi, père? D'accord? Alors, on traduit, alors, justement. Alors, les gens traduisent par père miséricordieux, mais en vérité, c'est une mauvaise traduction. C'est père de la miséricorde. C'est quoi père de la miséricorde? Ça veut dire que tu as la miséricorde classique, et tu as le père de la miséricorde. Tu as un niveau qui est encore plus haut dans la miséricorde. Un niveau que même celui qui est miséricordieux doit aller chercher. Lorsque on te dit que Yaakov, qui est lui-même miséricordieux, il élève cette fille-là, il élève sa voix, ça veut dire qu'il va chercher un niveau de miséricorde qui est encore plus profond. C'est quoi ce niveau? C'est pas Rachamim, c'est pas la miséricorde. C'est Av Rachamim. C'est le père de la miséricorde, c'est encore plus haut. Et ça c'est un terme qu'on utilise très rarement, Av Rachamim. En général on dit toujours Rachamim, miséricorde, pas Av Rachamim. Alors on dit Avinu Av Rachaman, notre père, le père de la miséricorde. D'accord? Avinu Av Rachaman, Amerachem Achemna Alenu. Vous savez quand on le dit ça? Comme ça vous aurez la Kavana demain. Quand on lui dit ça, Avinu Av Rachaman.
Pas dans la Mida?
Non. Avinu Av Rachaman.
C'est dans le
schéma? Non.
Non, c'est pas dans le schéma?
Exactement, juste avant le schéma. Juste avant le schéma, Avinu, c'est une prière extraordinaire. Avinu Av Rachaman. Notre père. Père de la miséricorde, Rachem Nalenu et Pétisson. C'est de ça qu'on parle juste avant le schéma. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on invoque là-bas? On invoque là-bas, pas Stam la miséricorde, le père de la miséricorde. Et c'est pour ça qu'on te dit, que Yaakov Avinu, il est monté ici à un niveau qu'il te dit, si je reste au niveau dans lequel je suis, je peux rien faire pour Rachel, je peux rien faire pour l'Assemblée d'Israël. La miséricorde à un tel niveau peut rien faire pour Akadosh, pour l'Assemblée d'Israël. Il faut que la miséricorde divine cherche un niveau encore plus élevé, et là, on peut sauver la situation pour l'Am Israël. Et donc, il dit, c'est pour ça, Vayevk. Il a pleuré. Vous savez ce que ça veut dire quand on pleure? On va s'arrêter un peu sur le plan. Pourquoi on pleure? D'ailleurs, on dit, les gens pensent que pleurer, c'est un signe de faiblesse.
Pleurer de joie aussi.
Alors, je vais vous expliquer. D'abord, pourquoi on pleure?
C'est un sentiment de l'âme.
Oui, mais pourquoi on pleure?
Il y a un ressenti.
Les gens, quelqu'un, il peut sourire. Quelqu'un peut faire une grimace. Quelqu'un peut taper du poing. Quelqu'un peut danser. D'accord? Mais pourquoi tu pleures? Alors, vous expliquez ce que dit la chassidoute. La chassidoute, vous savez ce que c'est les pleurs? les pleurs, c'est lorsqu'on est, on arrive à une situation que le cerveau ne contrôle plus. Et maintenant, ça va aller dans les deux côtés. On peut pleurer de joie aussi. Pourquoi tu pleures de joie? Parce que l'émotion est tellement puissante que ton cerveau n'arrive pas à la canaliser. Ça dépasse le cerveau. Il y a même un texte dans le Zohar, mais ça, je pense, c'est pas médical. Il y a un texte dans le Zohar qui dit que les larmes proviennent de ce qui déborde du cerveau. Lorsque le cerveau déborde, ça donne des larmes.
Le trop-plein.
Alors c'est un trop-plein. Non, mais ça peut être aussi positif.
Ah oui, c'est positif.
Bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui pleure de joie. Pourquoi il pleure de joie? Quand tu entends une bonne nouvelle, ça te réjouit. Pourquoi tu pleures pas? Parce que ton cerveau, tout de suite, il a tout de suite donné les proportions à la nouvelle. C'est bon. C'est bien sûr que c'est une bonne nouvelle, mais tout de suite, ton cerveau, il a repris le dessus, et il a cadré, il a structuré la nouvelle. Dis bon, voilà. Ça veut dire ça. Mais t'as des nouvelles qui sont tellement fortes que ton cerveau n'arrive pas à gérer. Ton cerveau est dépassé. Et ça s'exprime en pleurs. Pareil, Dieu préserve pour une mauvaise nouvelle. T'as une mauvaise nouvelle que t'arrives à contenir. T'arrives à réaliser, t'arrives à contenir. Mais Dieu préserve une mauvaise nouvelle qui est tellement forte que ton cerveau, ça le dépasse complètement. Donc il se met à pleurer. Ça veut dire que quand on dit qu'on se met à pleurer, ça veut dire qu'on atteint un niveau qui est au-delà de toute définition, qui n'arrive même pas à être contrôlé, qui n'arrive même pas à être structuré. Qu'est-ce que fait Jacob? Qu'est-ce que fait l'Assemblée d'Israël? Qu'est-ce que fait, la miséricorde divine? Qu'est-ce que fait la miséricorde? Qu'est-ce que fait le Père de la miséricorde? Il s'élève à un niveau qui est au-delà de la miséricorde classique et il pleure. C'est quoi il pleure? Ça veut dire qu'il va à un niveau qui est au-delà de la structure. Dieu lui dit, si on reste dans la structure, il n'y a rien à faire, je ne peux rien faire pour vous. Vous êtes empêtré dans les galères, vous êtes dans le sable mouvant, il est tout au fond, il va se noyer, il va s'enfoncer, il dit, ah, sauve-moi, baba, on peut rien faire, c'est fini maintenant, c'est mort. On peut rien faire pour toi. Mais quand on arrive à un niveau que la miséricorde divine va s'élever, Yaakov qui envoie la miséricorde divine va s'élever au Père de la miséricorde, il va s'élever à la source de la miséricorde. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vaïef, il pleure. C'est-à-dire quoi il pleure? Ça veut dire qu'il atteint un niveau, une relation avec Israël, qui n'est pas une relation cadrée, logique, structurée, jugée. C'est une relation qui est pleurée. C'est une relation qui est au-delà, qui est au-delà de tous les sentiments. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on se dit Vaïef, il pleure. Ça veut dire que même pour un Kadosh Baruch Hu, il peut s'élever à un niveau dans lequel, j'ai pas envie de dire il maîtrise plus parce que c'est grave de dire que Dieu maîtriserait pas une situation. Mais ça veut dire que, il est dans un niveau dans lequel il est au-delà de la structure. Il dit, écoute, je me pose pas la question de ce que tu mérites pas. Je donne. Et c'est à ce moment-là que Rachel n'est plus stérile et qu'elle donne un enfant. C'est à ce moment-là que l'assemblée d'Israël n'est plus stérile, qu'elle donne un enfant qui s'appelle Youssef.
On peut dire à ce moment-là qu'il y a une Rachmanout,
c'est ça? On dit Rachamim. Rachamim, la miséricorde.
Chez Bé-Goura, parce qu'à ce moment-là.
Non, ça n'a rien à voir. Parce que c'est tellement fort que c'est même ni la rigueur, ça dépasse tout ça.
Alors, est-ce que ça marche? Comment ça se fait alors qu'Hachem est obligé de se. Heureusement.
Parce que c'est exactement. C'est ça le thème du chapitre. C'est ça le thème du chapitre 45. Quand il y a des situations classiques. Alors, on arrive à se débrouiller avec la bonté et la rigueur. On se débrouille. D'accord? Mais là, c'est pas une situation classique, là.
Ah, ça, c'est un sentiment.
Et là, c'est une situation hors norme.
Au bord de la mer, là.
Et pour une situation hors norme, il faut des solutions hors normes.
Pas désespéré.
Oui. Alors, pour une solution classique, on se débrouille. Tu as un bon avocat, il va se débrouiller, il va défendre, Clément, pas Clément. On se débrouille. Mais là, c'est une situation que le meilleur des avocats, il te dit, écoutez, monsieur.
C'est une compensation.
Je peux rien faire. On a tout fait. Ça, oui. Bruxelles, là, on a tout fait. C'est mort, c'est fini. Il n'y a rien à faire.
Quand tu pleures, t'es
détendu. Tu peux faire le malin avec le tribunal de Dieu.
Non, d'accord.
Alors, comment tu fais?
C'est-à-dire que y a trop.
Et c'est, ça, c'est la force de la Gemara Zaken. C'est pour ça que David, il a dit la semaine dernière, il a dit ça nous a angoissé. Mais en vérité, ça, c'est la force de la Gemara Zaken. C'est qu'il te prend une situation qui est angoissante.
Tu vois,
ça retourne.
Qui est ma situation, qui est votre situation, qui est notre situation. Et il te montre comment en vérité c'est positif. Comment en vérité c'est justement quand tu sens que ça va très très mal, c'est à ce moment-là que ton discours avec Dieu il est complètement différent. Tu parles plus avec Dieu dans le sens bon écoute, donne-moi un petit coup de main, si ça te dérange pas, juste comme ça, donne-moi un petit coup de pouce. Non, c'est à Dieu, c'est pas un coup de pouce que je demande. Je te demande de tout reprendre en main parce que c'est mort. Moi j'arrive plus là. Là c'est mort. Et quand tu parles comme ça à Dieu, les résultats sont différents. Alors évidemment, on aimerait que notre relation avec Dieu soit pas tout le temps comme ça. Parce que c'est comme l'enfant qui a fait, il a fait les 400 coups, etc. Et à un moment, il t'appelle, il est perché dans un hôpital, overdose, il dit, papa, je suis là. Comment? Mais c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il a tout fait les 400 coups, il a frappé tout le monde, il a embêté tout le monde. Il dit, papa, je suis là. Tu comprends? C'est là que tu as la rachamim du père. C'est là que le chesed du père, d'abord, la rigueur du père a dit dégage. Même le chesed du père, il dit quoi, chesed? Ou chesed? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Faut qu'il comprenne un peu. Et là, t'as rachamim, la miséricorde, qui dit, c'est mon fils. C'est mon fils.
Mendy, les quatre, quatre matras étaient stériles, et Hanna aussi. Elles étaient dans ce même cas-là, il ne pouvait pas intervenir avant Jacob pour les autres.
Ah non, parce que... ça c'est pour une autre raison. Ouais. La raison pour laquelle toutes les matriarches étaient stériles, c'est parce qu'on dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il désire avoir la tefila, il voulait écouter leur tefila. Mais là, si vous voulez, là on touche à autre chose.
Et pour Hanna aussi, c'était
non, mais là, si vous voulez, là, on n'est plus dans la dimension d'une femme qui est stérile. Ça n'a rien à voir. Ah, là, on explique ce que représente Rachel.
Le symbole.
Le symbole. D'accord. Rachel, c'est l'assemblée d'Israël. D'accord. Qui peut être stérile. On va continuer. Vayefk. C'est pour ça qu'il a pleuré. Léorer ou l'amshir, rachamim, rabmisham, rachamim, rabim, alkol aneshamot, ve'al, mekor, Knesset Israël. Que grâce à ça, lorsque Yaakov pleure, lorsque la miséricorde divine pleure, et qu'il s'élève au niveau de Av Arachaman, le père de la miséricorde, c'est un niveau comme ça dans lequel il invoque la miséricorde pour tout le clan d'Israël. Léa Lotan Migalutan, pour les faire sortir de leur exil. Et c'est ça en vérité le message, le rabbi parle beaucoup de ça. Il y a des gens qui disent, regarde, ça fait 2000 ans qu'on est là. Ça fait 2000 ans qu'on est là. Tu crois qu'un an de plus ça va servir à quelque chose? Qu'est-ce que t'en penses, David? Ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Vous croyez vraiment que si on reste encore 10 ans en exil, il y a quelque chose qui va changer ici?
On est déjà resté trop longtemps, tu veux encore un an de plus?
Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai.
C'est que notre discours doit changer avec Dieu. Ça fait 2000 ans qu'on est là. Tu t'es dit, écoute, ce qu'on n'a pas fait en 2000 ans, on va pas te le faire en 10 ans. Hein.
La seule chose qui va marcher, c'est une manie de la Bastille à République. Hein? Bah oui. Pourquoi? Machia Arnaud.
Ah, on marche. Comment ça marche? 100 000
personnes. On veut Machia.
T'as pas vu le coup du monde 98, comment ils étaient?
Bah voilà, 100 000, ça peut le faire.
Une fois, il y a un rave qui a dit comme ça. Une fois, il y a un rave qui a une idée. Il a dit, on va rassembler tous les Juifs du monde et on va leur dire tel jour, telle date, telle heure.
On fait un truc comme ça.
D'accord?
À la même heure.
Tout le monde va mettre les vêtements de Shabbat, on sort dehors dans la rue, et les goyim vont nous dire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez ferme les boutiques, tout, la totale.
Je peux pas, d'accord, être pour là,
attends. Alors on va dire, ça y est, alors les goyim vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va tous leur répondre, ma chère arrive aujourd'hui. Comme ça, Dieu, il sera obligé, ça fera un tel buzz dans le monde entier, que tout le monde sera obligé, Dieu, il sera obligé, parce que sinon, ils vont dire, regarde, c'est ma chère qui n'est pas venue. Alors, il y a un rave qui en a parlé à un rabbi. Et Rabbi l'a dit comme ça. Il a dit, votre idée est très bonne. Mais le problème, c'est que pour mettre tous les rabbins d'accord sur un jour, il faut que moi j'y arrive. Ah oui.
C'est impossible.
Faut que Zidane marque en 4 minutes.
On refait le match.
Ah.
On refait le match.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te dit en vérité. Ça, c'est ce que le Rabbi explique. Le Rabbi te dit, quand on parle de Mashiach, il faut changer le discours.
Notre discours.
Oui, notre discours.
Bah, c'est ça.
C'est pas. On doit. Non, mais c'est plus que ça.
Faut changer.
On doit arrêter de dire à Dieu, écoute, je vais te rajouter un petit truc. Je veux dire, écoute, Akadosh Baruch Hu. Moi, je te fais les misotes que je veux. Mais we want Mashiach now.
Ouais, c'est ça.
Je suis en overdose. Je suis à l'hôpital. Je veux sortir.
Quand tu veux quelque chose, il faut un bon argument.
L'argument, David, c'est quand tu es en mode jugement. Quand tu es en mode jugement, là tu dis Chesed, Gvura, la balance, pencher, pas pencher. Mais quand tu passes en mode Rachamim, quand tu passes en mode miséricorde, tu dis Hachem, je ne mérite pas. Mais je te demande ta miséricorde. Encore plus que le Rabbi dit que notre génération est une génération méritante. Alors voilà. Seulement, qu'est-ce qu'on attend? Ça, c'est quelque chose que le Rabbi l'a dit.
Il a 25 ans.
Il a dit le problème, c'est que, mais justement, mais ça va, il a 25 ans, nous on n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il a dit, 25? Il a dit comme ça. Il a dit, aujourd'hui, il manque qu'une seule chose. C'est que les Juifs demandent Mashiach. On ne le demande pas. C'est, regardez, on va aller dormir tout à l'heure. Ça n'a pas empêché de dormir, Mashiach n'est pas venu aujourd'hui. Moi, je parle pour moi, en tout cas. Je vais dormir tranquillement. Ah oui. Ça va pas, on peut empêcher de dormir que ma chère n'est pas venue. Je dis, why not, pourquoi pas? Je joue au loto, et pourquoi pas, je veux gagner. C'est un peu ça, ma chère.
Et puis, quand je voulais quelque chose, je me roulais par terre.
Hein?
Jamais, finalement.
Ça a marché?
Bien sûr, ça marche.
Voilà, on t'a par terre, ma chère.
Moi, je vous dis, on a
pensé sur la neige.
Ah oui? Voilà.
Achète-lui, je t'en prie, achète-lui.
Mais le problème, c'est que bon, on a accepté. On baisse la tête. On dit bon, c'est comme ça. Le rabbi dit comme ça. Le rabbi dit aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, on est prêt à recevoir Mashiach. Mais Hachem, il attend une chose. Hachem, il attend une chose, qu'on se prépare à sa venue et qu'on exige Mashiach, qu'on le demande.
Moi, je pense qu'il faut se remettre en question, comme la sortie d'Égypte. Quand on a
voulu
sortir.
Bien sûr.
C'est dans cette condition-là. Il a demandé que Dieu nous bénisse.
Mais là, il faut vouloir sortir.
Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il savait à quoi il pensait? On ne va pas attendre quand même de mettre les
choses. Non, il dit Dieu, il est prêt. On est prêt à sortir, mais concrètement, il faut demander.
Oui,
il faut demander.
Ouais, mais le rabbi, il a dit qu'il fallait qu'on demande à plusieurs.
Quoi?
Ben non, pourquoi?
Le rabbi, il a dit qu'on allait prendre 2-3 personnes.
Combien qui sont sortis d'Égypte?
Je vais te dire comme ça. Le rabbi, il a dit comme ça. Il a dit s'il y avait 10 personnes. S'il y a 10 personnes qui s'entêtaient réellement pour l'avenue de Mashiach, Mashiach serait déjà là.
Que 10 personnes.
10 personnes. Après, il a dit la chose suivante.
Mais ce sont les 10 personnes.
Deux secondes.
Pas qu'il dort, il pense qu'à ça.
Mais pas du
tout. Toute la journée, c'est ça. Toute la journée, c'est ça.
Mais chérie, c'était pas demander Mashiach.
Quoi, je
vouloir Mashiach, c'est pas vouloir Mashiach.
Vouloir Mashiach, c'est pas crier Mashiach.
Non.
Vouloir Mashiach, c'est penser, vivre, et être dérangé par ça. Au point que dérangé.
Il connaît les cœurs des gens, les âmes des gens.
Ça,
les reins des gens.
Le rabbi dit s'il y avait 10 personnes, Mashiach serait déjà là. Et après, le rabbi, quelques mois plus tard, il a dit s'il y avait 3 personnes. Trois personnes.
Mais trouver personne, il n'y a pas dans le monde 3 personnes.
C'est même 3 personnes.
Si, il y a pas dans le monde, il n'y a pas 3 personnes.
Il n'y a pas 3 personnes. Non, tout le monde attend. Pourquoi pas? Bien sûr qu'on attend un chier. Pourquoi pas? Why not? Mais Rav Yamenu, amen. D'accord? Oui, mais.
Mais c'est quoi, t'en trouves quoi?
C'est pas amen. C'est ramen.
Qu'est-ce que tu appelles vouloir manger?
Vouloir, ça veut dire. Vouloir, c'est des gens qui s'entêtent, d'accord? Et qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce que le chien n'est pas là.
Grève de la faim, mon frère.
Ils n'arrivent pas à dormir.
C'est quand le match de Paris contre...
Ils vont pas dormir, t'inquiète pas
que là, ils vont pas dormir. Non, mais voilà, tu dis, vous choisissez entre une réunion de famille, tous ensemble, pour demander ma chienne,
voilà.
Et match de foot.
Et l'anniversaire de Neymar.
Imagine-toi un très très grand match.
Et ma chère, il arrive dans le stade.
Est-ce que tu aurais pu t'endormir en plein milieu du match? Tu peux pas, c'est pas possible. T'attends, tu vois, tu veux voir ce qui s'est passé. C'est pas possible. Et même si t'es endormi, tu te réveilles.
T'imagines qu'hier.
Tu te réveilles, c'est pas possible.
Juste pour info, hier, il y avait le ball, le fun.
Oh, peu importe.
Il y a 110 millions de gens qui le regardent.
Regardez juste pour la pub. Aux États-Unis. Hein.
Ouais, juste au steak.
Comment c'est possible?
Un milliard dans le monde.
110 millions, ouais.
Le spectacle. Ils ont payé tous 100 balles.
Il va falloir peut-être trouver un spectacle pour que les gens soient attirés par Machia.
Ça, c'est le chat.
Ils ont payé 100 balles pour voir.
Alors.
Si,
non, mais sans compter ce qu'ils ont vendu. Mais voilà, les gens ils sont attirés par quoi?
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'on peut changer les choses?
On peut changer les choses, mais ça tout commence par nous. D'abord, il faut que nous-mêmes on soit convaincus que nous-mêmes on ait envie de Mashiach. Et là, c'est pour ça que je vais avancer. C'est pour ça qu'il te dit ici, c'est très important d'arriver à la notion de Rachamim, miséricorde. C'est un autre discours avec Hachem. C'est plus du tout le même discours. C'est pas un discours dans le sens la balance, je suis méritant, pas méritant. Bon, ça, c'est un discours important. Là, on a changé de discours aujourd'hui. Là, on a changé de discours. On dit Hachem, on dit maintenant Hachem, c'est pas méritant, pas méritant. Je suis ton fils. Je suis ton fils, tu es mon père. Donc, tu te débrouilles, tu m'envoies ma chère, ciao!
Bah voilà, comme il a dit.
C'est tout?
Tu te roules par terre.
C'est tout? Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Énerve-toi et vas-y, pleure et crie.
Combien on a vu dans les fabriques, on a vu des fois le rabbi quand il se mettait à parler de Mashiach, il se mettait à pleurer. Pleurer, le rabbi. Oui. Quand on le voit dans les vidéos, en semaine, il se mettait à pleurer. Une fois, il y a un enfant qui était un enfant d'un très grand rabbi qui était dans une colonie américaine. Et c'est dans les premières années, le rabbi est venu le voir. Le rabbi est venu voir la colonie. Et le rabbi leur a parlé. Alors, quelques jours plus tard, c'était une colonie. Donc, quelques jours plus tard, son père, le Rav, vient à la colonie pour le jour de visiting day, ils appellent ça, pour rendre visite aux enfants, visite des parents. Et, parce que là-bas, ça dure longtemps, les camps, ça dure 2 mois. Et il va voir son fils, il dit alors, j'ai entendu que le rabbi de Lubavitch est venu vous voir. Il dit alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? De quoi il vous a parlé? Alors, le fils, il répond, il dit, il nous a dit que ma chère, elle allait venir. Alors son père lui dit, ah, t'as rien appris, moi je te dis ça tous les jours. Il dit, non, mais toi tu le dis, mais lui il le pense. C'est le père qui a raconté l'histoire.
Oui, il y en a qui attendent, il y en a qui...
Toi tu le dis, lui il le pense. Et ça, est-ce qu'on le pense vraiment? Dire, c'est facile de parler. Ouais, pourquoi pas? Quand on entend un drame comme ce qu'on a entendu aujourd'hui, ça m'a brisé.
Un gamin comme celui-là.
Un gamin.
C'est pas un. 13 ans. Ça a pas une force comme un
rien du tout. Il avait rien du tout. Tu chopes un microbe de je sais pas où. Je sais même pas. Il a fait la bar mitzvah, il a pas fait la bar mitzvah, il a fait la fête.
Bah, voilà. Bar mitzvah, il a fait quoi?
13 ans. Un gamin, un gosse. Comment c'est possible? Comment on peut accepter des choses comme ça? Comment on peut continuer? Comment on peut aller dormir ce soir? Hachem dit attends, tu vois, c'est quoi ça? Quoi, ça
il a coupé l'herbe sur les pieds. Hein.
On remet pas en question les calculs d'Hachem, mais on dit Hachem, écoute Hachem, t'es notre père. Il faut nous sauver, il faut nous aider. Et c'est ce qu'il dit ici, là, de Morazakim. Morazakim, il dit que ça, c'est le rachamim, la miséricorde. Le ha'alotan, megalutan, ou le yachadan, beyichud, alé, norantse, vauro, biprinat, neshikin. Tu dis que lorsque tu réfléchis comme ça, on va terminer avec ça. Tu dis, le but, c'est d'élever, lorsque Yaakov pleure, lorsque l'assemblée d'Israël pleure, lorsque Akadosh Baruch Hu, il est en train de pleurer pour nous, pour l'âme Israël, et ben, grâce à ça, ça nous élève de notre exil. Et ça nous permet de nous rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Sheu idabkud rucha berucha. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, idabkud rucha berucha. Le niveau des baisers.
L'adhésion.
C'est quoi? Que Moshe Katoub, ishakeni min shikot piyu. Il y a écrit dans Shirachir, vous me suivez? Page 315, regardez-moi, c'est magnifique.
14.
Ouais. Il dit, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, Ishakeni min shikot piu. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Qu'est-ce qu'on parle? De quoi cette histoire? De quoi on parle? Là, page 315. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire de baiser? C'est de quoi on parle ici? Seulement, on comprend. On comprend que là, on est à un niveau dans lequel, quand tu as réussi à toucher la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu s'unit avec toi, hein, c'est un niveau dans lequel Akadosh Baruch Hu, il t'embrasse. Et Akadosh Baruch Hu, il se pose pas la question de qui tu es, qu'est-ce que tu es. Il t'embrasse. Il te dit, t'es mon fils. Je pose pas de questions. Ça veut dire que c'est un niveau d'attachement extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Et il explique. Il dit, comment on peut avoir un baiser avec Akadosh Baruch Hu? Comment on peut embrasser Akadosh Baruch Hu? Comment on peut s'attacher à Akadosh Baruch Hu? Comment on peut avoir un tel attachement? Da'inu, ça veut dire, it kashrut dibur Hashem, dibur Adam bidvar Hashem zo alacha. L'homme va attacher sa parole avec la parole de Dieu, c'est la alacha. Vechen, marshava, marshava. Pareil, ta pensée, à quoi elle pense ta pensée? À quoi tu penses? À quoi tu penses à 10 heures du matin? À quoi tu penses à minuit? À quoi tu penses à 3 heures du matin? Tu penses à Dieu ou tu penses à autre chose? Ou maasé, mais maasé. Et pareil, ton action, tu vas l'unir avec Akadosh Baruch Hu. Shu maasé a mitzvot, ou bifrat maasé a tzedaka va chesed, de chesed de roi min, avou prina tribouk, mamash kumash kato viminot te chabekeni, ve esek a Torah, be dibo marchevet a yun, shem brene shikin mamash. D'accord. Donc là, je vais terminer avec ça. Tu dis voilà. Tu dis, quand tu arrives à éveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, t'arrives à te coller à Hachem. Ça veut dire, en d'autres termes, je suis en train de dire à Hachem, je lui dis à Hachem, avec tout ce que je fais la Torah, je fais la mitzvot. C'est pas que je fais pas. Je fais la Torah. Je viens à la synagogue, je viens à un cours de Torah. Il faisait très froid dehors ce soir, je suis quand même venu. Je viens. Mais je sens que ça décolle pas. Donc je dis à Hachem, écoute, je ne demande pas ce que je mérite ou je ne mérite pas. Je te demande de m'attraper, de me prendre, de me sortir. Et là, quand Hachem, il te prend, Hachem, il t'élève, et il t'amène, il te prend, il t'embrasse, comme ça. Tu fais le baiser. Et là, automatiquement, tu sens quand tu étudies la Torah, que ta parole s'attache avec la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ta pensée s'attache avec la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Ton action s'attache avec la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Dit l'Admor HaZaken, on termine avec ça, 316. Veinia l'idézé yavo l'iprinat ahava rabba b'idkeut libo girti l'yakov asharpadat avra. En faisant tout ça, page 316, en faisant tout ça, tu arrives à un niveau dans lequel l'amour d'Akadosh Baruch Hu est dévoilé en toi et dévoilé de façon très très forte. Mais encore une fois, ne vous faites pas avoir. Parce que là, si on suit la fin du chapitre du Tanya, on pourrait se dire, bon, très bien, on a compris. On va commencer à faire la Torah, on va commencer à faire les mitzvot, on va s'attacher à Dieu, c'est terminé. C'est un concept que l'Admor HaZaken nous apprend ici. C'est un concept très important qu'il nous apprend. Que lorsque tu arrives à une situation dans laquelle le système du jugement ne marche plus, et que tu ne peux plus rien faire, avec la bonté et avec la rigueur, c'est trop tard, c'est terminé, c'est mort. Quand tu arrives à une situation comme ça, rappelle-toi qu'il te reste une clé. La clé qui te reste, c'est la clé de la miséricorde. Et ça, c'est pour ça qu'il est écrit. Je terminais avec une histoire. C'est raconté dans la Gemara qu'une fois, il y a eu Isaïe. Isaïe Yeshayahu. Il est venu voir Chizkiyahu. Le roi Chizkiyahu, on l'a pris dans la Gemara. Le roi Chizkiyahu. Et il est venu le voir, il lui a dit, tu vas mourir. Il dit, pourquoi je vais mourir? Putain, c'est un bon roi, Chizkiyahu. Il dit, tu vas mourir parce que tu t'es pas marié. Alors, pourquoi il s'était pas marié, Chizkiyahu? Parce qu'il avait vu, par prophétie, que son fils, ce qui allait naître, ça allait être un fils qui allait être mécréant. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais donc, c'est pour ça qu'il s'est pas marié. Il s'est pas marié. Alors, il a dit, voilà, j'ai vu la prophétie. Alors, Isaïe lui a dit, mais c'est. Qui t'a donné le droit de rentrer dans le calcul d'Hachem? Toi, tu vas avoir des enfants. Pas toi de calculer comment ils sont tes enfants. Toi, tu vas avoir des enfants. On raconte que lorsque le Chizkiyahu, le roi, il a entendu la prophétie de Yeshayahu, Yeshayahu, il s'appelait Yeshayahu, fils de Amots. C'est son nom. Alors, dès qu'il a terminé sa prophétie, il a dit Ben Amots. Comme ça, il a appelé Ben Amots. Termine ta prophétie et sors. Et il est sorti. Et il dit pourquoi? Il dit, tu sais pourquoi? Il a dit parce que j'ai reçu de mon grand-père. Son grand-père, c'est David Améler. J'ai reçu de mon grand-père, qui a dit, mon arrière-grand-père, qui a dit la chose suivante, qui a dit « Afilu cheref hadam ou nachat al savarosh al adam » Même si une personne a une épée aiguisée qui est posée sur son cou, « Al ityesh adam in rachamim » un homme ne doit jamais se désespérer de la miséricorde. Donc toi, tu viens d'annoncer que je vais mourir. Moi, je te dis que j'ai appris de mon arrière-grand-père David Améler, que même si une épée « Al ityesh min a rachamim » ne désespère jamais de la miséricorde. Pas de la bonté, de la miséricorde. Donc termine ta prophétie et dehors. C'est ce qu'il a fait. Et Chahu est sorti. Il est écrit là-bas, Chizkiyahu s'est tourné vers le mur, il a prié Hachem, et Hachem lui a rajouté 15 ans de vie. Maintenant, il a eu un enfant qui est né. Il s'est marié, il a eu un enfant qui est né. Cet enfant, effectivement, est un mécréant. Ménaché. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est pas tes calculs. Ça, c'est les calculs d'Hachem. Mais ça, c'est pour nous montrer que cette personne devait mourir. C'est-à-dire, Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, dis au revoir à tes proches, tu vas mourir. C'est pas stam. C'est-à-dire, Dieu n'envoie pas un prophète pour rien. Il allait mourir. Seulement, il a dit, j'ai reçu de mon grand-père qu'il faut jamais se désespérer de la miséricorde. Ça, il faut se rappeler qu'on a un Dieu qui est miséricordieux. Et c'est la raison pour laquelle vous prenez toutes les tefillot de Rosh Hashanah Yom Kippour, on n'arrête pas de parler, le mot qui revient le plus, rachamim, 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 quel mal est rachamim, quel mal est rachamim, rachamim, ava rachamim, rachamim, irhamo, ava rachamim, on n'arrête pas de dire rachamim à toutes les sauces. Pourquoi? Parce que c'est ça. On dit Hachem, bon, juge-nous, fais la balance, pas de problème.
Change le
décret. Exactement. Rachamim, miséricorde. On va souhaiter que Bézrat Hachem, à quel jour il est pitié sur nous, Rachamim miséricorde. Avec ça, Bézrat Hachem, on sera zoché très très rapidement à avoir la venue de Mashiach. Et si on ne l'exige pas, on ne l'aura pas. Alors, we want Mashiach now!